Eh bien, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Ça va bien ce matin? Oui, moi aussi ça va très bien, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon et il continue à nous inspirer et à nous montrer le chemin. Levons-nous et invoquons son nom ce matin. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous inspire. Nous n'avons pas besoin que tu nous parles sans arrêt. Ce que nous voulons, c'est que tu inspires nos cœurs. Au travers de ton esprit qui est en nous, de l'intelligence que tu as placée en nous, qui est un don qui vient de toi. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être des gens intelligents selon toi, pour faire ta volonté, la comprendre, même si des fois elle nous blesse un peu. Merci, Seigneur Jésus, de nous aider à aller de l'avant toujours avec la foi, que c'est toi qui nous dirige, qui nous conduit. Merci, Jésus. Amen.
Amen.
Amen. On va faire une lecture ce matin. Ah, mais vous savez que c'est l'anniversaire de Timothy. On va applaudir notre petit frère Timothy. C'est pas rien, hein? 6 ans, dis donc. Je ne voudrais pas avoir 6 ans, moi.
En fait, c'est aujourd'hui.
Pardon?
En fait, l'anniversaire de Lucas aussi aujourd'hui.
Et en fait, l'anniversaire de Lucas aussi aujourd'hui. Voilà, c'est bien. Lucas, 15 ans, mon Dieu. On s'en fout, ça nous vieillit, mais on aime bien ça. Bon, 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. J'espère que je n'ai pas arrêté le truc. Non, je n'ai pas arrêté le truc. Vous y êtes? Oh, on peut lire déjà un peu avant. Allez, on va lire au sujet de... au verset 17. Certes, verset un peu avant même, au sujet voilà, 14. Je ne puis que remercier Dieu. Partout où nous allons, en suivant le char triomphal de Christ, il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. En tout lieu, il se sert de nous, de notre travail, pour répandre comme un parfum la connaissance de Christ. Oui, vraiment, nous sommes ce parfum de Christ, ou pour employer une autre image, cet encens offert par lui qui monte comme une agréable odeur vers Dieu, le Père. Nous le sommes à la fois pour ceux qui se laissent sauver, et pour ceux qui continuent à courir sur le chemin de la perdition. Pour ceux-ci, c'est une odeur fatale qui vient de la mort et qui y conduit. Elle leur fait pressentir leur fin et le jugement. Pour les autres, c'est un parfum vivifiant qui mène à la vie nouvelle et éternelle. Et qui donc est à la hauteur d'un tel ministère? Quel homme est capable d'assumer pareille responsabilité? À votre avis? Aucun. N'est-ce pas? Personne. Certes, en tout cas, pas ceux, ils sont nombreux, qui falsifient la parole de Dieu ou font de sa prédication une affaire rentable. Nous ne sommes pas de leur nombre, car si nous annonçons la parole, c'est en toute sincérité comme des hommes qui n'ont pas à craindre la lumière du jour. Nos intentions sont pures, nous agissons en envoyé de Dieu, proclamons sa parole telle qu'elle vient de lui, nous nous savons responsables devant lui, nous tenons sa présence et nous vivons par la force de Christ dans la communion avec lui et comme membres de son corps. Qu'est-ce que je suis en train de vous lire là? Ben, je crois que je me suis trompé, mais j'ai bien fait de me tromper. Verset 18. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient la nôtre et il ne saurait en être autrement car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai lu... dans 2 Corinthiens 2, parce que j'ai tourné 2 pages à la fois, mais c'était bien. Ça va tout à fait dans le sens de ce que j'ai à vous dire ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Alors, nous qui sommes ici au château, bonjour à vous qui nous rejoignez sur le net, mais vous savez bien que je prêche pour vous, mais je prêche aussi pour ceux qui sont au château et qui sont des fidèles et qui ont accompli Luc 14, 33, c'est-à-dire qui ont renoncé à tous leurs biens, qui ont mis ensemble afin de pouvoir vivre cette vie communautaire. Et nous savons donc ce que c'est qu'un disciple. Un disciple, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Il est une brebis qui entre dans la bergerie qui est l'église de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui construit son église. Et là, ben, qu'est-ce qu'il trouve quand il rentre dans la bergerie? Ben, il trouve d'autres disciples, d'autres brebis. Et toutes les brebis sont différentes les unes des autres. Et puis, il trouve aussi un berger humain. Ah! Et un disciple qui commence sa vie de disciple, il est comme un enfant. Il est comme un enfant. Alors le berger, le pasteur, il sait que ce nouveau, il a besoin de plus de tendresse que les anciens, de plus d'encouragement que les anciens. Il s'en occupe, il le bichonne un peu plus. C'est normal, parce que c'est le nouveau, il est un peu désorienté. Et après, quand ce nouveau grandit, que le temps passe, eh bien, le qu'il est un peu plus solide, eh bien, le berger lui donne quelques coups. Oui. Ben oui, c'est-à-dire qu'il lui donne des vérités qui ne sont pas forcément agréables, des vérités sur lui-même, sur sa façon de se comporter, sur sa façon, enfin, sur toutes sortes de choses, mais ce n'est pas toujours agréable. Alors un bon berger va commencer par tailler un peu dans, voilà, hein, sur cette nouvelle brebis qui commence à grandir, sur ce nouveau disciple, et puis il va le sculpter, et puis il va le modeler, pour qu'il ait une autre image. Un disciple qui rentre dans la communauté, qui rentre dans l'église de Jésus-Christ, puisque la communauté, c'est ça, l'église de Jésus-Christ. Vous ne trouverez aucun autre modèle dans la Bible. On ne condamne pas ceux qui vivent autrement, mais nous voulons vivre comme la Bible le dit. Donc, une personne qui rentre dans l'église de Jésus-Christ, elle a une drôle d'image. Elle trimballe avec elle des façons qu'elle avait autrefois, des trucs, des machins, et puis il faut corriger ça pour que ça soit l'Église et non pas le monde dans l'Église. Et il faut qu'un disciple soit à l'image du Seigneur Jésus, c'est ce qu'on vient de lire, hein, dans 1 Corinthiens 3,18. Alors, on objectera, oui, mais le texte, il dit que c'est par le Saint-Esprit qu'on doit être transformé, pas par le pasteur. Ceux qui pensent comme ça montrent qu'ils ont besoin d'être transformés. Parce que dans l'église de Jésus-Christ, Dieu a donné des ministres, des ministères, pour amener les disciples à la perfection. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Jésus. C'est comme ça qu'il fait. Il a créé son église et il a mis dans son église des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Enfin, tout ça pour l'édification du corps de Christ. On peut lire dans Éphésiens 4, 11, 16, pour ceux qui nous rejoindraient et puis qui connaîtraient pas très très bien la Bible. Éphésiens 4, 11, 16, je lis dans la parole vivante. Les dons de Dieu aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et instructeurs. Et tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin que tous soient convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Vous voyez, je connais comment ça fonctionne dans l'église de Jésus-Christ. Bien sûr que c'est par le Saint-Esprit. On dit toujours, ah oui, mais moi c'est le Saint-Esprit qui me guide. Oui, mais si le Saint-Esprit ne guide pas les gens comme ça, ça n'existe pas cette histoire. Ça passe dans le corps, ça passe dans l'Église. Hein? Alors, Dieu a donc donné des ministères et ça se passe comme ça et jamais autrement. Les bergers humains, ils font les choses par amour. On va me dire, mais Michel, tu es sûr vraiment que tu fais les choses par amour? Attendez, on va en parler. Il est bien évident que les disciples ne perçoivent pas toujours que le berger fait les choses par amour. Hein, c'est sûr. Un vrai enfant de Dieu qui est docile, il est rassuré par le bâton du berger divin et du berger délégué, du berger humain. Il est rassuré. Vous connaissez le texte. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Les gitans disent ta roulette. Je ne sais pas ce qu'ils ont compris. Ils disent ta roulette me rassure. Ça m'a toujours fait rire. Les autres, ben, ils contestent la présence du bâton. Ils n'aiment pas le bâton. Ils n'aiment pas ça. Mais pourtant, c'est la pure vérité. Pour certains, c'est très difficile à entendre et à supporter cette vérité. Parce qu'ils voudraient que ce soit que le Saint-Esprit qui les dirige. Eux, tout seuls, comme ça, voilà. On écoute le Saint-Esprit, on ne veut pas de pasteur. Mais pour le disciple qui a décidé d'évoluer, d'avancer, de grandir, il aime ça. Parce qu'il sait que c'est dans le plan de Dieu. Il supplie même le berger de lui dire ce qui ne va pas. Il n'attend pas que ce soit le berger qui lui court derrière. S'il est vraiment docile, s'il est vraiment décidé d'évoluer, il cherche la compagnie du berger, il va lui parler, il fait tout pour essayer de comprendre, pour apprendre, pour évoluer. Il supplie le berger de lui dire ce qui ne va pas, quelles sont les raisons qui entravent qui entravent sa vie, qui font que ça ne marche pas, qu'il n'a pas de succès. Et qu'est-ce qui le conduit à faire des bêtises et à les répéter encore et encore. Vous comprenez? Et mes frères et sœurs, seuls ceux qui sont vraiment touchés par la grâce de Dieu demandent la vérité, même si elle est douloureuse. Combien de fois, quand j'ai voulu attirer l'attention de quelques frères ou quelques sœurs sur certains de leurs manquements, ils ont protesté, par exemple au sujet de l'éducation des enfants. Par contre, si je leur parle de leurs qualités, alors là, ils m'approuvent. Non seulement ils m'approuvent, mais ils sont émerveillés par ma perspicacité. Ils trouvent que j'ai un discernement et que j'ai une justesse dans mes remarques. Ah oui, alors là, je suis tout à fait leur copain. Mais je ne vais pas être votre copain. Bien sûr que j'aime bien être votre ami, j'aime bien être votre frère qui est aimé, mais mon ministère, ce n'est pas ça. Mon ministère, c'est de vous amener à la perfection. Et pour vous amener à la perfection, il y a des choses qu'il faut couper, il y a des choses qu'il faut corriger. Puis ce n'est pas toujours agréable. Alors pour les défauts, non, là, j'ai mal vu, là. Non, là, je me suis trompé, ce n'est pas possible. Alors voilà la méthode des vrais pasteurs. Et je parle parce que je sais qu'il y a aussi des pasteurs qui viennent m'écouter en cachette. Bonjour les collègues. Je vous dis qu'un vrai pasteur, la méthode du vrai pasteur, c'est quoi? Quand il le faut, le vrai pasteur, il dit la vérité sans avoir peur de perdre ses amis. Bien sûr que ça ne fait pas plaisir de perdre ses amis, de perdre une brebis, de l'avoir partie en ronchonnant. Mais si ses amis sont ulcérés, si ses amis sont vexés, si ses amis sont blessés par des remarques, par des conseils, alors il vaut mieux les perdre. Il vaut mieux les perdre. Je vous le dis, quelle utilité pour un berger d'avoir des amis malhonnêtes envers eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui pense qu'il n'a rien à changer, qu'il a raison tout le temps, j'ai raison. Ah ben non, j'ai raison. Voilà, et puis ça ne marche pas, mais j'ai raison quand même. Ah, c'est terrible ça. Alors non, un vrai berger n'a pas peur vraiment de perdre ses brebis, parce qu'il sait qu'un vrai disciple ne le quittera pas. Pourquoi? Parce qu'il raisonne correctement. Il dit, j'ai confiance dans mon berger, il réfléchit intelligemment, et il se dit, mais il n'a aucun intérêt à me blesser. Pourquoi il va me blesser? Quel intérêt il a à me blesser? Quel intérêt il aurait de m'écraser? Qu'est-ce qu'il gagnerait s'il me perdait? Pour qu'il m'ait parlé de cette manière, par exemple, je parle là au sujet de l'éducation des enfants, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas bien. Et le vrai disciple qui est humble, normalement un disciple ça doit être humble, il sait que c'est le grand berger qui a placé le berger humain dans l'église. Pour l'instruire, pour la corriger. Il sait aussi que si le berger humain ne fait pas correctement son travail, il aura des comptes à rendre au grand berger céleste. Donc quel intérêt un pasteur, un vrai pasteur, aurait-il d'écraser ou de reprendre ou de corriger ou de talonner quelqu'un, corriger quelqu'un, émonder quelqu'un? Quel intérêt? C'est pas intelligent. Quand un berger humain voit un tel disciple, un disciple qui comprend, qui se dit « oui, c'est vrai, il a aucun intérêt de me parler comme ça », alors le vrai berger, il est réjoui, il sait qu'il a là un disciple qui est digne de recevoir l'initiation, c'est-à-dire d'en savoir davantage au sujet de l'Église, au sujet des choses spirituelles, du monde des esprits et de toutes ces choses-là. Recevoir l'initiation, connaître la vérité, connaître ce qu'est la sagesse, être dans la lumière. Il n'y a rien qui est au-dessus. Il n'y a rien qui est au-dessus. Mais il faut avoir vaincu en soi-même cette nature inférieure. Et moi, je ne peux pas vaincre votre nature inférieure. J'ai déjà assez à faire avec la mienne. Vous devez, chacun d'entre vous, vaincre votre propre nature inférieure. Cette nature inférieure qui se vexe, qui est outrée, qui est vindicative. Combien de personnes ont été vexées, elles se sont vengées et, mais est-ce que je les avais volées? Est-ce que je les avais écrasées? Est-ce que je les avais assassinées? Non, au contraire, je leur avais donné un amour qu'ils n'avaient même jamais trouvé dans leur propre famille. Donc voilà, j'avais osé leur dire la vérité. J'avais osé leur dire que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas... Ils préfèrent mieux. Ah, vous savez, dans le monde spirituel, il y a des barrières qu'on ne peut pas franchir à moins de remplir certaines conditions. Ça, je vous l'ai souvent dit. Les entités spirituelles ne veulent pas que vous passiez derrière certaines barrières si d'abord, ici-bas, vous n'avez pas franchi des barrières et si vous n'avez pas rempli certaines conditions. Dans le monde des esprits, de Dieu, il y a une beauté, il y a une harmonie, il y a une symétrie. Et cette splendeur, qui est habitée par des êtres magnifiques, ces êtres magnifiques n'accepteront pas que vous y entriez si vous n'êtes pas digne. Et même du mauvais côté, dans le monde des esprits méchants, si vous vous adressez à eux en les chassant, etc., etc., ils vous rient au nez. Ils font semblant de partir, mais ils reviennent, cette fois pire. Et vous faites du mauvais travail. Vous chassez des démons de certaines personnes, et ces personnes, elles vont l'attraper sept fois pire. Donc vous faites un boulot monstrueux. C'est terrible. Grave. Tout ça parce que vous pensez que vous avez raison. Et pour être digne de passer derrière ces barrières où vivent des êtres célestes, des anges de Dieu, des esprits de Dieu, il faut au moins avoir accepté de reconnaître ses propres défauts et de les corriger. Et ça, on a toute la vie pour les corriger. Ces êtres ne vont pas attendre que vous ayez corrigé tous vos défauts, mais ils veulent voir que vous avez cette attitude de dire « Oui, j'accepte. » Et j'accepte que ça se passe dans le système de l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire au travers des ministères. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Le point faible de la majorité des chrétiens, c'est quoi? Ce qui les empêche d'aller au-delà du baptême dans le Saint-Esprit, ce qu'ils appellent le baptême dans le Saint-Esprit, parce que, vous savez, là, franchement, vous avez des gens, ils se mettent à parler en langue un jour, mais il n'y a rien qui se passe à part ça. Ils parlent en langue, mais c'est tout. Ils ne sont pas plus témoins que ce micro. Il n'y a rien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de puissance qui se manifeste réellement. Eh bien, pour la majorité des chrétiens, ce qui les empêche, leur point faible, c'est qu'ils sont susceptibles. On est tous plus ou moins susceptibles. C'est la chair, mais il faut vaincre ça. Ils ne veulent pas que le pasteur se mêle de leur amélioration. Ils ne veulent pas. Et ils s'imaginent que s'ils quittent leur pasteur sera bien puni. Voilà. Donnant plus la dîme, il sera puni. Nanana, mère. Je l'ai bien eu. Vous voyez? Ils disent aimer la vérité, mais ils cherchent la vérité doctrinale, c'est tout. C'est pas, ça n'a rien à voir. La vérité réelle, c'est celle de la vie. De la vie. Où est-il l'amour de la vérité de la vie dans cette attitude-là? Alors, les disciples qui se vexent, qui souffrent, mais qui réfléchissent après. Qui réfléchissent en présence de Dieu. Le pasteur est là pour aider, pour construire, pour transformer, pour embellir, pour sauver. Alors ce qui est monde, ce qui blesse, ce qui peut vexer, alors en fait c'est toujours de l'amour. Vous voyez, il réfléchit comme ça. Il y en a qui réfléchissent comme ça, vous voyez. Ce qui compte, ce n'est pas le fait, c'est-à-dire la réprimande, ce qui compte c'est le but. C'est le but. Le diable, il fait son boulot, il le fait très bien. Hein? Il le fait très bien. Le diable, il fait des cadeaux, mais dans un but criminel. Mais si vous voyez que le cadeau et non le but qu'il a le diable, Ben, vous allez être empoisonné. Vous allez prendre le cadeau, vous allez dire, ah, je suis béni de Dieu, ouais, génial, c'est le diable. Vous comprenez? C'est grave. C'est grave. Et voilà comment beaucoup se trompent, sont trompés, mais c'est parce qu'ils veulent se tromper, c'est parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au système établi dans l'Église. Alors ils regardent à l'apparence et non au but recherché. Je me souviens d'un monsieur qui s'appelait, je pense qu'il est décédé maintenant, monsieur Goldenberg. Monsieur Goldenberg avait souffert dans les camps nazis, il s'en est sorti, et il s'est établi dans mon village, et il était dentiste. Mais c'était un monsieur qui était très nerveux, il avait tellement souffert, il avait été tellement torturé là-bas, il était très nerveux, mais il n'y avait qu'un dentiste dans le village. Donc, quand on avait mal aux dents, on n'avait pas le choix, il fallait aller chez monsieur Goldenberg. Mon Dieu, la trouille. La trouille. C'était. Il jurait comme un charretier. Alors, il sortait ses pinces qui dataient des années 40, parce que alors, lui, le modernisme, il ne connaissait pas. Hein. Et puis, les anesthésies, il n'était pas question de vous faire une anesthésie. Maintenant, vous allez pour une carie, vous demandez une anesthésie, il vous la fait. Vous sortez de chez le dentiste, vous avez pas mal. Hein. Ah, c'est super. Tandis que là, non. Puis, il avait une. Vous savez, comment on appelle cette. La fraise. Cet appareil, avec des lanières, des machins. Puis ça faisait un bruit, mais quelle horreur. Déjà dans la salle d'attente, on manquait de s'évanouir, c'est une horreur. Vous savez, le blues du dentiste d'Henri Salvador. Une horreur, une horreur. Puis jurait, je ne vais pas vous dire les mots qu'il employait, mais c'était ordurier. Moi, j'étais un enfant. Il était là, sur ma tronche, en train de gueuler, de jurer et tout. Et je hurlais, mais bon. Tout se cicatrise un jour, n'est-ce pas? Tout se répare avec le temps. Et à la fin, ben, j'étais quand même bien content parce que ben, voilà, la dent qui n'était pas bien, il l'avait arrachée, puis la cicatrice était faite, et puis, au bout d'un, puis après, puis, voilà, puis je ne me souviens plus de la douleur. Je me rappelle que j'avais eu mal, mais je n'ai plus la douleur. En fait, ce qu'il faisait, il faisait bien son boulot, ce monsieur, mais il était un peu bizarre. Il était un gueulard, c'est un homme qui jurait. Il avait un matériel qui datait des années 40. C'était... Mais tout ce qu'il faisait, c'était calculé, c'était pesé, c'était déterminé pour donner tel ou tel résultat. Il avait étudié pour être dentiste, il avait de l'expérience, et il n'était pas un sadique, il cherchait juste à nous soigner. Mais bon... Il n'était pas très... Vous avez compris, ouais, c'était terrible. Et c'est ce que fait un pasteur. Vous avez des pasteurs qui sont un peu comme Goldenberg. Moi, des fois, je suis un peu comme Goldenberg aussi. Même si le pasteur est un peu frustre, comme M. Goldenberg, sa méthode, si elle est un peu brutale, c'est quand même pour le bien. Il ne disait pas « chic, voilà, un nouveau client, je vais le faire souffrir, je vais faire tout ce que je peux pour qu'il ait mal. » Non. Et puis alors, il fallait lui faire confiance, il fallait y aller. Et si on ne lui faisait pas confiance, on était libre, mais ça s'infectait, et puis ça pouvait se transformer. Hein, moi, j'ai une cousine qui est décédée d'une leucémie à cause de justement parce qu'elle n'a pas soigné correctement ses dents. C'est grave. Bonjour le désastre. Elle avait 14 ans, cette gamine. Ouais, Marlise, elle s'appelait. Il faut comprendre, mais ça demande quand même de l'intelligence, que j'ose vous secouer parce que je suis désintéressé. Si j'avais un intérêt, j'oserais pas vous secouer. J'aurais peur de vous perdre. Et la peur, c'est pas une bonne conseillère. Les gens qui ont peur sont mal conseillés. C'est pas le Saint-Esprit qui les conseille. Alors, mon audace, ma franchise, ma façon d'être, sans artifices pastoraux, oh, alléluia, chers frères, oh, que le Seigneur soit béni, oh, que l'Éternel soit élevé sur le trône, alléluia, quand je te vois, oh, je vois la présence de... Bon, ça, c'est machin, je peux pas le supporter. C'est des façons, c'est... J'aime pas, c'est mielleux, c'est des façons... Mais il y en a qui aiment ça, hein, il faudrait toujours être un pasteur flap, 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 tout, moi, je peux pas... Je suis comme ça... Mais ça devrait vous prouver que je suis désintéressé. Ça m'est complètement égal que vous pensiez que je ne suis pas spirituel. Ce qui est important, c'est que vous sachiez que je suis désintéressé. Mais il y a toujours des gens qui vont penser que ma façon de me manifester, c'est parce que je suis de mauvaise humeur. Ah ben, il a une mauvaise poil. Voilà pourquoi. Ah, puis il a un sale caractère. Parce que je suis méchant, que je manque d'éducation. Ah, alors là, Si ma mère était encore là, elle ne serait pas d'accord avec vous. Hein? Et là, 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 là. Mon Dieu. Écoutez bien ça. Devenez désintéressé, vous aussi, et vous ferez les mêmes choses que moi si un jour vous avez charge d'église. Je vous le promets. Si vous êtes vraiment désintéressé, un jour, si vous avez charge d'église, vous ferez exactement ce que je fais. Peut-être pas avec mon exubérance personnelle, mais avec la vôtre. Vous direz la vérité aux autres, sans avoir peur qu'ils vous quittent, puisque vous ne voulez pas profiter d'eux. Vous voulez simplement les aider. Un berger humain dit la vérité à ses brebis pour les aider. Et si la brebis n'a pas compris, si elle ne veut pas être aidée, eh bien qu'elle s'en aille. Il y en a d'autres qui viendront, qui veulent la vérité, qui veulent être aidés, qui veulent grandir. Que voulez-vous qu'un berger fasse avec des brebis susceptibles? Alors, supposons même que je fasse une erreur, et ça m'est arrivé, et souvent j'ai confessé ça devant vous. Supposons que je fasse une erreur, que je commette une injustice envers vous, en vous critiquant par exemple, ou je sais pas, en étant... Là encore l'autre jour, je dis quelque chose de pas très gentil au sujet d'une sœur, et puis après, ben, j'étais demandé pardon, j'ai dit, excuse-moi, pardonne-moi, je suis complètement... C'est vraiment pas bien ce que j'ai dit. Alors, supposons, je dis ou je fais quelque chose, c'est pas bien. Si vous avez compris ce que je viens de vous prêcher aujourd'hui, vous allez pas vous arrêter à ça. Mais vous allez tout faire pour me prouver que c'est vous qui avez raison. Si vous êtes un homme, hein, si vous êtes une vraie femme, vous allez me prouver que vous avez raison et que j'ai tort. Et quand la preuve sera faite par vous que je me suis trompé, c'est vous qui aurez la victoire, puis moi, ben, je corrigerai ce que je vous ai dit, je vous demanderai pardon, je m'inclinerai, et vous aurez le droit de vous... vous avez le droit de vous exercer pour devenir meilleur et pour remporter la victoire, mais vous n'avez pas le droit de vous vexer. C'est dur, ça, hein? Vous êtes vexé, vous faites la tête, vous allez vous plaindre partout. Moi, je ne donne pas 2 centimes de ceux qui se vexent au lieu de se mettre au travail. C'est trop facile de bouder sans résoudre les problèmes, sans apprendre, sans communiquer, sans mettre dans sa vie un peu plus d'amour, un peu plus de lumière. Ceux qui disent, mais c'est le Saint-Esprit qui vont faire, ils sont dans la démission. Ils sont dans la démission. C'est le Saint-Esprit qui va faire. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé. Ça serait facile si c'était toujours le Saint-Esprit qui nous dit va à gauche, va à droite, n'achète pas ça, achète ça, fais ci, fais ça, dis ceci, dis cela. Non, mais attendez, où est-ce que vous avez vu ça? Et la foi, alors, elle est où? Alors maintenant, mettez-vous au boulot pour pouvoir venir me dire ensuite, tu vois Michel, tu t'étais trompé. Moi, devant l'évidence, devant vos fruits réels, devant les résultats tangibles, je vous dirais, ben oui, je me suis trompé, veuille me pardonner, c'est moi l'idiot, t'avais raison, pardon, 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 bravo. Alors qu'attendez-vous? Il faut vous mobiliser, il faut tout faire pour me convaincre que j'étais aveugle et que je me suis trompé. Montrez-le-moi et je serai très heureux. Mais sincèrement, je serai très heureux. Mais vraiment, là, on va vendre le château. Si d'ici là, il n'y a pas 1000 personnes au portail, comme il a été prophétisé, mais ne serait-ce que 50 personnes qui viennent au portail. Allez, je vais faire comme Abraham. S'il n'y en a que 20 qui viennent au portail. Allez. S'ils en amènent 10 qui viennent au portail, qui se convertissent, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui marchent avec Dieu, alors je reconnaîtrai que je me suis trompé. Vous voyez? Alors qu'attendez-vous? Mobilisez-vous, faites-le pour me convaincre. Montrez-le-moi, je serai heureux. Montrez-moi le résultat de vos évangélisations par des conversions réelles, pas par des gens qui sont touchés. Vous savez, touchés, c'est pas coulé, hein? Par des gens qui sont touchés, c'est pas suffisant. Il faut des conversions réelles, hein? Des guérisons réelles, des délivrances réelles, des prophéties qui s'accomplissent vraiment. Pas des machins qu'on arrange avec un petit peu de mélasse et puis de colle, et puis un peu, vous savez, un peu comme MacGyver qui s'arrange. Si je vous ai mal jugé, vous avez le droit de me montrer que vous êtes plus noble que moi. Si je vous ai mal jugé, vous avez le droit de me prouver que vous êtes plus généreux que moi. Si je vous ai mal jugé, mais tant que vous ne me le montrez pas, je suis obligé de constater que j'ai raison. Vous voyez? Et dans notre future communauté, là-bas où on va être, ça sera la même chose. Mais là, je vous assure, je vais être beaucoup plus sévère, c'est-à-dire que des révoltés du Bounty comme on a eu ici, ils feront pas 3 jours. Hein. Je les vire tout de suite. Ah non, je veux pas recommencer une histoire comme on a eu depuis le 27 juin. Ça, ce n'est pas question. Tant que vous ne montrez pas, je suis obligé de constater que j'ai raison. Vous devez savoir que ça ne m'avantage pas d'avoir raison, parce que je suis malheureux quand j'ai raison. Je préférerais avoir tort dans certains cas. Je préférerais m'être trompé dans certains cas. Dans certains cas, je serais heureux de constater que j'ai eu tort et que vous avez eu raison. D'ailleurs, je l'ai prouvé souvent. Peut-être que certains pensent que j'exagère mon importance et que j'essaie de prouver que je suis infaillible. Mais arrêtez avec ça, c'est des bêtises. Faites remarquer, vous avez le droit de le penser que je suis comme ça. Mais je ne suis pas comme ça. Par contre, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il m'a appelé et comment il m'a appelé. Je sais comment il m'a inspiré et comment il m'a toujours inspiré. Et je vois les résultats réels et pas seulement du blablabla, 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 blablabla. Blabla. Je sais que c'est Dieu qui m'a inspiré à fonder cette communauté. Je sais que c'est Dieu qui tient cette communauté dans ses mains. Je sais qu'en dehors, il y a d'autres lumières, mais je sais aussi qu'elles sont nocives. Et si je parle comme ça, c'est pas pour me mettre en avant, c'est pour vous éviter de perdre votre temps à gauche et à droite. Pour moi, le bonheur, c'est pas de vous commander. Je me rappelle, on avait eu avec Bill William à Gagnères une convention, Teen Challenge, avec un pasteur qui s'appelait Mel Graham, c'est qui était venu nous prêcher sur la vie de disciples. Et il me disait, vous êtes des leaders. Et il avait dit, est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, je m'étais levé, j'ai dit, mais moi, j'ai pas envie d'être un leader. Il me dit, c'est pour ça que tu seras un leader. Ceux qui n'ont pas envie d'être un leader, c'est eux que Dieu choisit. Mon bonheur, c'est pas de vous commander. Mon bonheur est ailleurs. Mon bonheur, il est ailleurs. Mon bonheur est que vous puissiez vivre les choses que je vis, de voir ces gens qui se convertissent, de voir les guérisons, de voir les délivrances, de voir la tête des milliers de personnes pauvres qui sont reconnaissants d'avoir été aidés parce qu'on leur a donné à bouffer, parce qu'on leur a payé des pompes, parce qu'on leur a payé des tuyaux, parce qu'on leur a payé des puits pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Après, on va dire que je m'occupe pas des pauvres. Merde à la fin! Ils savent rien, ils font que dormir et de rouspéter, de râler, c'est leur ministère. C'est pourquoi je vous demande, depuis des années, de venir avec moi en Afrique. Mais je ne vous ai pas seulement demandé de venir avec moi en Afrique, je vous ai aussi demandé de venir avec moi en Amérique. Est-ce que vous vous rappelez de ça? On va y aller maintenant, parce que je veux. Pourquoi? Parce que ça va vous inspirer. Vous allez voir des églises. Là, ce que vous avez comme église en France, ça, c'est toujours dans des quartiers minables. C'est toujours des trucs minables. C'est toujours... Mon Dieu, je vais vous faire voir des églises là-bas. Vous allez voir, et vous allez voir l'ordre. Vous allez voir comment ça marche. Vous allez voir comment c'est beau. Je veux que vous veniez voir la pire des pauvretés en Afrique. Et je veux que vous veniez avec moi voir la plus grande richesse aux États-Unis. Ça va vous inspirer pour faire la même chose. Amen, amen. Et on applaudit le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi je veux qu'on aille en Amérique. Mais on ne va pas en Amérique que dans les églises, on ira aussi visiter des trucs bonnards. Parce que les églises, c'est bien, mais ce n'est pas bonnard. C'est pourquoi j'ai voulu vous former, vous apprendre à prêcher. Alors c'est vrai, des fois je m'emporte, là encore tout à l'heure, je parlais fort. Hein. Mais parfois, vous m'auriez obligé. Est-ce que vous pensez que j'aime m'emporter? Mais non, j'aime pas m'emporter. Pas du tout. Si les frères et sœurs faisaient leur devoir correctement, j'aurais pas besoin de m'emporter. J'ai pas besoin d'être délivré d'un esprit d'emportement. J'ai besoin d'être délivré des casse-pieds qui font tout pour m'emporter. Différent. Jésus, il avait aussi ce problème avec ses disciples. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Il a pas dit, Jusqu'à quand vous supporterai-je? Hein? Mais au fond de moi, moi, je suis tranquille parce que j'ai un collaborateur formidable. C'est Jésus. Et Jésus a dit, je suis la vie. Ah, je suis la vie. Je suis la vie. Comment elle agit, la vie? Elle est parfaite, la vie. Jésus est parfait. Vous voyez, il y a des gens, ils ont les oreilles détruites. Ah, c'est la vie. Jésus est la vie. Comment elle... Observez ce qui se passe. Regardez. Regardez, ouvrez vos yeux. Ceux qui voyagent jamais, ceux qui sortent pas de leur trou, qui connaissent pas comment le monde est vaste et ce qui s'y passe, ou qui ne voient ça qu'au travers de leur télévision, en prenant leur petit café bien tranquille, ils connaissent rien du tout. La vie, mais vous aurez beau crier, vous aurez beau vous arracher les cheveux, rien à faire. La vie, elle est implacable. Aucune larme ne peut apitoyer la vie. Combien de gens ont eu des accidents, des braves gens, des gentilles personnes. C'est tellement vrai qu'on dit, c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Oui ou non? Combien ont été ruinés, qui avaient bossé toute leur vie? Combien de gens ont été trahis par leur meilleur ami, Jésus le premier? Combien de gens ont été abandonnés par leurs femmes, trompés? Combien de femmes ont trompé leur mari? Combien de maris ont trompé leurs femmes? Combien de souffrances? Combien ont été abandonnés par leurs propres enfants? Je pense à Mamie Denise, 17 enfants, il y en a deux ou trois qui vont la voir dans sa maison de retraite là-bas. Mais c'est honte, mais voilà, c'est ça la vie. C'est comme ça que ça se passe. C'est implacable. Combien ont perdu leur travail? Combien ont été tués dans les tremblements de terre, les inondations, les catastrophes, ou en faisant du jogging par un fou? Combien ont perdu leur vie au Népal? Combien ont perdu leur vie au Nigeria et dans tous les pays musulmans où il y a tant de guerres? Combien? La vie corrige l'homme. Elle le secoue. Elle le massacre. Mais elle ne lui explique rien. Rien. Pour avoir une explication, il faut aller auprès de l'homme de Dieu. Il faut qu'un homme de Dieu, un berger humain, donne l'explication. Ah. C'est bizarre hein, ce que je vous dis ce matin. Et là, est-ce qu'il va croire ce que l'homme de Dieu lui dit? Est-ce qu'il va croire l'homme envoyé de Dieu? Est-ce qu'il va croire le berger humain? Si un serviteur de Dieu ne leur donne pas la réponse qu'ils veulent, ils vont en voir un autre. Et puis voilà. Moi, quand je vois que j'arrive pas à éclairer quelqu'un, quand je vois que j'arrive pas à lui communiquer la sagesse, la révélation que Dieu me donne, eh bien, je m'adresse à mon associé, à Jésus, à la vie. Et je lui dis, Seigneur, écoute, charge-toi de celui-là, parce qu'il a une carapace dure. Et Jésus dit, ok. Et la vie, Jésus, le secoue encore un peu. Et puis après, il me le renvoie pour que je lui donne les explications. Vous voyez? Si vous ne pensez pas, si vous ne prenez pas en considération ce que je vous révèle chaque semaine, pourquoi vous pensez qu'on fait des réunions? Mais pourquoi vous pensez que je prêche l'évangile? Pourquoi vous pensez qu'on est là, puis que je vous enseigne des choses? Juste pour passer un moment, pour dire, ah ben oui, ah ben c'était bien ce qu'il a dit. Hein? Je laisse la vie vous secouer, et la vie, elle est terrible. Et puis n'allez pas dire que je blasphème quand je dis ça. Regardez autour de vous, lisez la Bible et vous allez voir que c'est la pure vérité. Les bergers humains sont gentils, mais avec la vie. Alors vous pouvez hurler tant que vous voulez, vous pouvez pleurer, elle vous brise, elle vous concasse, elle vous renvoie au serviteur de Dieu. Alors, c'est déjà arrivé à beaucoup. Des fois, ça peut prendre quelques jours, des fois, ça peut prendre 10 ans, des fois, ça peut prendre 20 ans, même plus. Vous savez, dans les gens, il y a une tendance inférieure. C'est bien obligé de le reconnaître aussi. Et cette tendance inférieure, les gens la nourrissent. Et cette tendance inférieure les encourage, alors ils la nourrissent encore. Dans l'espoir que... En contentant cette tendance inférieure qu'ils ont en eux, ben ils vont être heureux, que cette tendance va leur donner la possibilité d'atteindre le bonheur. C'est pour ça que je dis toujours, les gens s'attirent eux-mêmes leurs problèmes. Eux-mêmes. Alors que tout est bien réglé dans l'Église de Jésus-Christ. Il suffirait simplement d'être humble et d'être soumis. En disant, bon, ben, je ne comprends pas, mais je vais y croire. Puis ça va cicatriser au bout d'un moment, comme chez Goldenberg. S'il voulait être humble, s'il se soumettait au ministère, aux envoyés de Dieu. Mais non, ils préfèrent écouter leur tendance inférieure qui est tellement spirituelle. Ah oui, parce que la tendance inférieure qui est en nous, elle nous parle en se servant de la Bible. Ah. Même le diable, il fait ça, il se sert de la Bible. Comment il a tenté Jésus? En prenant les Écritures. Et même sans parler du diable, votre propre nature inférieure, elle va vous citer des versets. L'autre jour, il y a un homme de Dieu qui est venu et m'a cité des versets. Il m'a dit, tu vois, le Seigneur te dit, il faut que tu sois comme ci, comme ça, regarde Moïse, il a fait ci, il a fait ça. Je dis, ok, d'accord. Maintenant, je vais prendre un autre texte de la parole de Dieu avec le même Moïse et il a agi exactement le contraire. C'est quel conseil que je dois suivre? Alors, viens pas me dire ce que je dois faire. Je prie Dieu qu'il me donne l'intelligence et la sagesse pour savoir ce que je fais, et ça me suffit. J'ai pas besoin de tes conseils. Merci. Vous voyez, mes frères et sœurs, faut être intelligent. Mais l'intelligence est un don de Dieu. Si vous vous recommandez votre sort à l'Éternel, il agira. Si vous êtes dans la prière sincèrement avec des intentions réelles, il va vous répondre, il va vous conduire, il va vous guider, mais dans le cadre de l'Église, pas autrement. La vie sur la terre, c'est une école. Donc vous trouverez des leçons. L'Église de Jésus-Christ, c'est une école. Donc vous y trouverez des leçons de tous les côtés. De tous les côtés. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous serez harcelé par la destinée. Voilà. Et vous penserez que ce sont les démons qui vous harcèlent. Et que ce sont les démons qui vous font du mal. Alors que c'est la vie qui tente de vous corriger. Et vous penserez que c'est votre pasteur qui n'a rien compris et qui vous veut du mal. Alors que c'est la vie qui vous corrige. Dieu envoie aux humains des ministres pour leur faciliter l'évolution. Et s'ils ne veulent pas les écouter, alors ces personnes-là, elles trouvent d'autres instructeurs. Vous voulez leur nom?
Échec. Misère et toutes ces sortes de choses. Et ça, c'est implacable.
Parce que quand on n'a pas voulu accepter de son plein gré d'apprendre les lois divines, on est obligé de les apprendre à coups de baguette. À moins que Dieu ne vous aime pas. À moins que vous soyez un bâtard, que vous ne soyez pas un enfant de Dieu. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, il va vous corriger. Oui ou non? Et vous allez être obligé de faire sa volonté. Vous allez être coincé. Pour ma part, ça m'est facile de ne plus me mêler des affaires de ceux qui ne veulent pas de mon ministère et de ne plus faire de remarques si vous vous y prenez mal. Et quand un envoyé de Dieu ne s'occupe pas d'une personne, il arrive le moment où cette personne ne sait plus ce qui lui arrive. Au début, ça va. Et puis tout d'un coup, ça, vous savez, il n'y a rien de pire que de ne pas savoir d'où viennent les difficultés. Est-ce que c'est Dieu qui me châtie? Ou est-ce que c'est le diable qui m'attaque? Ou est-ce que ce sont simplement les impondérables de la vie? Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Et puis viendra le jour où vous direz, finalement, mon pasteur, c'était mon meilleur ami. Mais je l'ai compris trop tard. Alors bon, j'en entends qui pensent, j'entends déjà leurs pensées. Oh, mais eux, mais pour qui il se prend? Mais quel orgueil il a? Mais quel prétentieux, quelle vanité il a, ce pasteur, de dire des choses comme ça? Mais quand même, pensez ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais prenez ce que je vous dis en considération. Et mettez-vous au travail. Amen. Merci Jésus, parce que je sais que tu t'es adressé à chacun de nous ici au château, à chacun de ceux qui sont dans les églises à gauche, à droite et qui contestent leur pasteur. Mais tu as aussi parlé à des pasteurs qui ont besoin d'être encouragés ce matin. Mais tu as aussi parlé à quelques-uns qui ont besoin d'être corrigés. Je te remercie, mon Dieu, d'avoir parlé à chacun, ne serait-ce qu'au travers d'une ou deux phrases. Je te prie, Seigneur Jésus, que ton travail, par ton esprit, puisse être fait dans l'ordre que tu as établi dans l'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.